Excellent réveil à tous. Voici le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 130 contaminations au coronavirus recensées désormais en France, des mesures de confinement annoncées ce week-end, des annulations et reports en série et des préoccupations en ce qui concerne la réponse sanitaire. Nous verrons dans ce journal avec Nouran Mahmoudi comment les hôpitaux se préparent à un éventuel afflux de patients.
Quelles conséquences aura la circulation de ce coronavirus sur la vie quotidienne et en particulier sur la vie culturelle? Ben, on va voir ça dans le journal, Benoît.
On a appris hier soir que le salon du livre Livre Paris n'aura pas lieu cette année. Hier, le musée du Louvre est resté fermé suite à l'exercice d'un droit de retrait de ses personnels. Explication à suivre. Le projet de loi ordinaire relatif à la réforme des retraites adopté par l'application du 49.3 à l'Assemblée nationale samedi soir. Deux motions de censure ont été déposées à gauche et à droite. C'est une réponse des oppositions à la décision d'Édouard Philippe d'engager la responsabilité de son gouvernement. On verra ça avec Stéphane Robert.
Et puis on ira également en Turquie où l'opération bouclier du printemps contre les forces du régime syrien à Idlib continue.
Et puis à la veille du Super Tuesday, nous prendrons le chemin des États-Unis où Pete Buttigieg, surprise, vient d'annoncer son retrait de la course à l'investiture démocrate. À 7h12, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, qu'en est-il du clientélisme? Puisque l'on évoque bien entendu cela dans la perspective des municipales, on posera la question à Eve Zeftel, elle est journaliste à l'AFP.
Alors, 116 personnes contaminées par le coronavirus Covid-19 sont actuellement hospitalisées en France, d'après le dernier pointage réalisé par le directeur général de la Santé hier soir. 9 d'entre elles se trouvent dans un état grave, alors que jusqu'à maintenant 12 patients ont été guéris. Ces chiffres en constante augmentation depuis janvier vont très probablement continuer à grossir. On va revenir sur les conséquences de la circulation de ce virus sur notre vie quotidienne. D'abord, voyons comment les hôpitaux se préparent à un éventuel afflux de patients avec Nouran Mahmoudi.
Selon le docteur Anne Goffard, virologue au CHU de Lille, l'important pour faire face au coronavirus, c'est un accueil spécifique des patients aux urgences, notamment les plus fragiles, comme les enfants ou les femmes enceintes, et l'achat de matériel supplémentaire, mais pas uniquement.
On s'assure que tout le monde est formé et informé des procédures à respecter pour prendre en charge les échantillons des patients, et qu'on dispose des outils techniques pour réaliser les tests. Et puis, pour la partie clinique, principalement, c'est les secteurs de réanimation et de maladies infectieuses qui se sont préparés, avec deux autres secteurs qui sont la pédiatrie et l'obstétrique.
Mais ces dispositions ont un prix. Et selon le docteur Mathieu Lafaurie, chef du service d'infectiologie à l'hôpital Saint-Louis, les moyens sont limités.
L'idée, c'est d'avoir à disposition de façon urgente ou extrêmement rapide des lits d'hospitalisation en cas de survenue d'un événement majeur aigu qui va consister à ne pas hospitaliser des patients qui ont des hospitalisations qui sont programmées, essentiellement pour ce qui est de la chirurgie. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire la place rapidement pour les patients qui ont besoin de lits en urgence. Ça a quand même un impact assez important sur les soins courants. C'est-à-dire que ça diminue la qualité des soins qu'on peut avoir pour d'autres patients.
À l'hôpital Bichat, qui est centre de référence du coronavirus, on est inquiet face à cette nouvelle crise sanitaire. Le docteur Olivier Meilleron, membre du collectif Interhôpitaux et médecins à Bichat, estime que l'insuffisance des moyens ne manquera pas d'handicaper les hôpitaux.
On part d'une situation où on avait déjà un hôpital qui était en déficit de personnel et de moyens. Donc on voit effectivement la vague ou l'orage arriver avec un petit peu d'inquiétude. On va se retrouver avec un hôpital qui va tourner au ralenti en attendant d'éventuels patients.
Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, la France n'est pas encore au stade épidémique et tout l'enjeu pour l'hôpital est bien de retarder au maximum cette éventualité.
Nouran Mahmoudi. On a appris hier soir que le salon du livre à Livre Paris n'aurait pas lieu cette année. Il devait se tenir du 20 au 23 mars, édition 2020. Purement et simplement annulé, conséquence de l'annulation, de l'annonce samedi de l'interdiction d'événements rassemblant plus de 5000 personnes en milieu confiné. Ce qui a provoqué par ailleurs la fermeture prématurée du salon de l'agriculture samedi soir, l'annonce de l'annulation du salon Paris Manga la semaine prochaine et la fermeture inopinée, décidée par les personnels eux-mêmes du musée du Louvre. À la suite d'une assemblée générale improvisée, plus de 300 agents du musée ont exercé leur droit de retrait. Écoutez les explications de Christian Galani, représentant de la CGT Culture au musée du Louvre.
Les personnels se sentent effectivement en danger. Le musée du Louvre, chaque jour, connaît bien plus de 5000 visiteurs. Je pense qu'on peut s'accorder facilement pour dire que le musée du Louvre est un espace confiné.
Précisément, vous demandez quoi pour pouvoir travailler
en sécurité selon vous?
C'est de distribuer à tous les agents ces solutions hydroalcooliques, tous ceux qui sont en contact avec le public. Par ailleurs, nous demandons à ce qu'une infirmerie soit ouverte le week-end, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais qu'en tout cas, on discute la question éventuelle de distribution de masques. Il est évident que le musée du Louvre doit adapter les mesures en fonction de l'évolution de la pandémie. Il ne serait pas tout à fait exclu de fermer un établissement comme le musée du Louvre, qui est un établissement qu'on peut clairement considéré comme un établissement à risque.
Des propos recueillis par Benjamin Illy. Autre conséquence ce matin, la rentrée scolaire prévue au retour des vacances d'hiver a été reportée dans 9 communes du département de l'Oise. Dans le monde, la barre des 3000 morts liées au coronavirus a été franchie. Hier, ces dernières heures, près de 500 nouveaux cas de contamination ont été recensés en Corée du Sud, où 22 personnes supplémentaires sont mortes. Par ailleurs, une deuxième personne infectée par le Covid-19 est décédée hier aux États-Unis dans l'État de Washington. En ce qui concerne les conséquences économiques de cette propagation du coronavirus, l'effondrement de l'activité manufacturière en Chine au mois de février a été confirmé ce matin.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel, la réforme des retraites. Eh bien, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce week-end l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi ordinaire en première lecture à l'Assemblée.
Il a profité d'un conseil des ministres extraordinaire samedi matin, convoqué originellement d'ailleurs au sujet du coronavirus, pour demander l'autorisation à ses ministres d'engager la responsabilité du gouvernement. Et dans la foulée, il a annoncé sa décision aux députés. C'était samedi en fin d'après-midi. Les débats sur ce projet de loi sont désormais suspendus et le texte part directement au Sénat. Mais en réponse, 2 motions de censure ont été déposées par l'opposition hier. Elles seront débattues demain. Stéphane Robert.
Les 2 motions de censure déposées par l'opposition n'ont aucune chance d'aboutir. Il faudrait pour ça qu'elles obtiennent l'approbation d'une majorité de 289 députés. Or, même si la droite et la gauche s'associaient, on ne dépasserait pas les 200 parlementaires. Par ailleurs, il est assez peu probable que la droite vote la motion de gauche ou que la gauche vote la motion de droite, étant donné que les textes feront valoir les positions de chacun sur la réforme des retraites. Par exemple, dans sa motion, le groupe Les Républicains défendra son projet de réforme et mettra en avant le fait qu'il estime nécessaire de repousser l'âge de départ en retraite à 65 ans. On voit mal les insoumis, les communistes et les socialistes acquiescer et voter une telle motion, même si certains à gauche expliquaient ce week-end qu'ils n'excluaient pas de voter avec la droite, le plus important pour eux étant de censurer le gouvernement. Quoi qu'il en soit, ça ne changera rien à l'issue de la procédure. Les motions ne seront pas adoptées, contrairement au projet de loi qui dès lors s'en ira au Sénat dans le cadre de la navette parlementaire et qui devrait être examiné au mois d'avril. En attendant, il reste encore aux députés à examiner le projet de loi organique de la réforme qui, lui, ne peut pas faire l'objet d'un 49-3. La loi organique ne contient que 5 articles et a fait l'objet du dépôt de 1800 amendements par les députés. C'est beaucoup moins, évidemment, que pour la loi ordinaire, mais l'opposition promet là encore de batailler ferme. Nous ne lâcherons rien, a notamment déclaré Jean-Luc Mélenchon.
Stéphane Robert. L'opération militaire turque en Syrie et sur la région d'Idleb, hier 19 soldats syriens ont été tués et 2 avions militaires ont été abattus par les forces turques qui accentuent encore un peu plus ces dernières heures la pression sur Damas tout en laissant passer vers la Grèce des milliers de migrants pour contraindre l'Europe à prendre parti. Les explications de notre correspondant dans la région, Aurélien Colli.
Plus d'une centaine de morts dans les rangs de l'armée syrienne, selon la Turquie, qui a poursuivi ses frappes sur des positions du régime. Frappes de drones qui quadrillent désormais le ciel de la province d'Idlib, ou de chasseurs F-16 qui n'ont pas besoin de pénétrer l'espace aérien syrien pour atteindre leur cible. Depuis 24 heures, les images de ces bombardements ultra précis, pulvérisant des tanks, des convois, des radars ou des pièces d'artillerie du régime syrien, tournent en boucle sur les télévisions turques, où les analystes militaires, spécialistes et autres responsables politiques défilent pour commenter cette opération baptisée désormais « Bouclier du printemps » avec 3 objectifs selon Ankara: venger la mort des soldats turcs tués dans un bombardement du régime syrien jeudi, stopper l'offensive de Damas qui a déplacé 900 000 civils vers la frontière turque depuis décembre et faire reculer ses troupes jusqu'aux limites de la province d'Idlib. Au sol, la contre-offensive est menée par les rebelles syriens que la Turquie arme, finance et encadre depuis l'été 2018 au sein d'une armée nationale syrienne. Plusieurs positions clés perdues ces dernières semaines ont déjà été reprises, notamment la ville de Sarakeb, où passe l'autoroute M5 qui relie Damas à Alep, la deuxième ville du pays.
Les explications d'Aurélien Colli. Et face à la situation à la frontière gréco-turque où se pressent des milliers de migrants depuis quelques jours, l'agence européenne de contrôle des frontières Frontex a relevé hier son niveau d'alerte. Aux États-Unis cette nuit, le jeune candidat modéré Pete Buttigieg a annoncé qu'il abandonnait la course à l'investiture démocrate. Un peu plus de 24 heures avant le vote des électeurs de 14 États lors du Super Tuesday, cette annonce surprise va renforcer les chances de l'autre modéré de la course, Joe Biden, face à Bernie Sanders. Les explications de Gregory Phillips.
Dans l'avion qui doit le mener vers le Texas, Pete Buttigieg s'adresse aux journalistes qui le suivent et annonce un changement de destination. Ce sera finalement South Bend, Indiana. C'est là-bas, dans sa ville, que quelques heures plus tard, Buttigieg annonce à ses militants qu'il arrête sa campagne.
Nous devons admettre qu'à ce point de la course à l'investiture, le meilleur moyen de garder la foi dans nos idéaux et nos objectifs est de se retirer et d'aider notre parti et notre pays à se rassembler. Donc ce soir, je prends la décision difficile de suspendre ma campagne présidentielle.
Le centriste Buttigieg appelle au rassemblement du parti alors que Bernie Sanders, beaucoup plus à gauche, est maintenant en tête du nombre de délégués démocrates. Malgré tout, Mayor Pete, comme l'appellent les Américains, a fait une très bonne campagne jusqu'à remporter début février les caucus de l'Iowa. Mais aujourd'hui, il prend acte de son mauvais résultat en Caroline du Sud et du manque de soutien de l'électorat afro-américain. Il reste encore 6 candidats dans la course à l'investiture démocrate. Le retrait de Buttigieg devrait surtout profiter à Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama, qui après sa victoire en Caroline samedi, voit sa campagne relancée.
Grégory Phillips, on revient sur le sujet de la primaire démocrate tout à l'heure dans la revue de presse internationale de Camille Magnard. Une nouvelle perturbation engendrant vent violent et pluie sur la quasi-totalité de la métropole. Voilà ce qui nous attend pour cette journée du lundi 2 mars. Température attendue cet après-midi de 8 à 12 degrés en général, jusqu'à 16 degrés sur les rivages de la Méditerranée. Les matins de France Culture, c'est avec Guillaume Erner.